Bonsoir, bonsoir Bon, on va recommencer, pardon. Bonsoir. Bonsoir au public fidèle du Centre Sèvres. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en région par divers modes de retransmission. Bonsoir aux auditeurs de RCF pour ce mardi d'éthique publique de décembre consacré à l'Algérie. Algérie 2019, jeunesse et vieux problèmes. Le jeudi 12 décembre, une élection présidentielle doit avoir lieu en Algérie. La date et l'organisation de ce scrutin ont été imposées par l'armée contre la volonté d'une large partie de la population qui manifeste en masse depuis février 2019 pour obtenir une démocratisation du système politique. Dans un premier temps, ce mouvement, puisque tel est son nom, a obtenu que l'inamovible Abdelaziz Bouteflika renonce à solliciter un nouveau mandat, puis démissionne. Un président par intérim a été nommé, de sombres règlements de compte ont eu lieu au sein du groupe dirigeant, et la date du scrutin présidentiel, d'abord reportée sine die, puis annoncée à plusieurs reprises, a fini par être fixée au 12 décembre, après que l'armée était sortie du bois. Les candidats sont tous des caciques du régime. Comment le vote se déroulera-t-il? Si nouvel élu il y a, quelle sera la réaction de la rue? Toute prévision est sans doute impossible, ce qui n'empêche pas de mobiliser des éléments de compréhension sur les enjeux des événements à venir. Comprendre en effet ce qui se passe en Algérie reste compliqué pour le non-spécialiste et peut-être pour les spécialistes eux-mêmes. Au-delà du rappel régulier que dans ce pays de 43 millions d'habitants, 45% de la population a moins de 25 ans, et que beaucoup de ces jeunes songent à émigrer dans l'espoir de trouver de meilleures conditions de vie, que savons-nous précisément de ces conditions de vie, des attentes, des espoirs de ceux qui protestent en masse contre un régime vieilli et délégitimé? Pour ne pas parler de la guerre civile des années 90 et son cortège d'horreurs et de cadavres. En outre, une autre guerre obscurcit en France la compréhension d'un pays pourtant proche. C'est la guerre que la France a menée de 1954 à 1962 contre les Algériens qui combattaient pour l'indépendance de leur pays. Cette mémoire dangereuse, pour reprendre le titre d'un ouvrage rédigé en commun par nos deux invités de ce soir, cette mémoire dangereuse trouble la perception d'un passé colonial, parfois violent, et continue de susciter en France, face à l'Algérie et aux Algériens présents sur le sol français, d'inquiétantes crispations identitaires. Pour nous aider à essayer d'élucider toutes ces questions et de mieux saisir ce que vit aujourd'hui l'Algérie, nous avons le très grand plaisir d'accueillir Alexis Génie. Alexis Génie a reçu le prix Goncourt en 2011 pour son premier roman, L'art de la guerre. En 2016, il a publié avec Benjamin Stora Les mémoires dangereuses, de l'Algérie coloniale à la France d'aujourd'hui. Et en 2019, Féroces infirmes, un texte sur la guerre d'Algérie, un passé qui ne veut pas passer. Benjamin Stora est professeur des universités, il a enseigné l'histoire du Maghreb contemporain, les guerres de décolonisation et l'histoire de l'immigration maghrébine en France à l'Université Paris 13 et aux Langues-Eaux. Il est président du Conseil d'orientation de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Algérie et la mémoire coloniale, dont le deuxième volume de « La guerre d'Algérie vue par les Algériens » en collaboration avec Renaud de Rochebrune, de la bataille d'Alger à l'indépendance, qui vient de sortir en collection Folio. À qui la parole ?
Bien, bonsoir. Donc, comme il a été rappelé, je ne suis absolument pas un spécialiste de l'Algérie. Hein, je suis un humble romancier, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte des choses. Il s'est trouvé que j'avais en effet écrit « L'art français de la guerre » il y a une dizaine d'années. Et dans cet « Art français de la guerre », il y avait tout ce qui racontait, entre autres, la décolonisation, les guerres de décolonisation. Il y avait tout un chapitre qui était consacré à l'Algérie. C'était l'histoire d'un militaire, voilà, qui faisait toutes les guerres coloniales et qui se retrouvait à la fin de sa carrière en Algérie, qui était passé de la situation de jeune fuyard d'un chantier de jeunesse, arrivant dans un maquis, puis s'engageant dans l'armée française libre, puis allant en Indochine et à la fin se retrouvant à pacifier l'Algérie pour lutter contre le FLN. Donc une trajectoire qui est une trajectoire française qui est quelque chose qu'on a du mal à saisir encore aujourd'hui. Et puis en effet, j'ai fait un livre avec Benjamin. Ce livre était la rencontre avec un historien, c'est-à-dire que on avait sur le même sujet, ces sujets de la mémoire coloniale, des positions qui étaient qui se ressemblaient, mais lui est arrivé par l'histoire comme science humaine, donc un travail universitaire d'historien, et moi par un travail, on va dire, de romancier, c'est-à-dire un travail sur l'imaginaire collectif français. Voilà. Et on est arrivé à des conclusions qui étaient un peu semblables et il nous avait paru intéressant de confronter ça. Et donc récemment, le roman que j'ai fait, donc qui est paru au mois de mars dernier, c'était sur l'histoire d'un appelé qui arrivait en 1960 et qui participait à la fin de la guerre d'Algérie. Mais là, c'était avec un destin un peu particulier puisque il avait dans une sorte de d'explosion de violence. Il se retrouvait à l'OAS, il se retrouvait dans des groupes plus fascistes, etc. Là aussi, ce qui m'intéressait, c'était une espèce d'aventure intérieure, l'aventure humaine de ces gens dont on veut plus bien se souvenir, qui était la droite et l'extrême droite violente, qui avait participé à l'Algérie française et qui a continué à exister en France. Bien. À force de faire ces livres, je me suis beaucoup intéressé à l'Algérie. Pour quelles raisons ? En fait, j'en sais rien. Je suis pas d'origine pied noir, je suis pas, mais dans ma famille, personne n'a participé à la guerre d'Algérie. Mais d'un autre côté, c'est pas si mal. Parce que j'ai aucune mémoire à défendre. J'ai pas de position a priori. En fait, c'est comme si j'étais un peu extérieur. Ma seule porte d'entrée, c'est d'être français, d'avoir vécu en France depuis plus de 50 ans. Et donc, de saisir cet étrange traumatisme algérien qui continue de parcourir la mémoire française, d'exister. Et d'exister de façon presque intact. C'est extraordinaire. Alors, l'expérience qu'on avait eue avec Benjamin sur notre livre commun, il avait un sujet très particulier, qui était le rôle de la mémoire coloniale dans l'imaginaire du FN, Front National à l'époque. Que finalement, ce qu'on voulait dire, c'était que le Front National n'avait pas des racines nazies extérieures, c'était vraiment une idéologie locale, française, enracinée dans la culture française et l'histoire française, et qui était liée à l'aventure coloniale et aux tragédies de la décolonisation. Et on aurait bien aimé raconter ça quand on rencontrait des gens dans des librairies, des salons, etc., etc. Mais on avait énormément de mal à en placer une, non pas qu'on était interrompu, mais dès qu'il était question d'Algérie, de mémoire coloniale, il y avait toujours dans la salle des gens qui voulait prendre la parole et qui voulait raconter. J'ai fait des rencontres comme ça où j'ai pas dit grand-chose du livre, mais j'ai beaucoup écouté les gens. Et c'est quelque chose qui est très particulier, c'est-à-dire que cette histoire d'Algérie qui date quand même d'une soixantaine d'années, on est censément indépendant, et en fait, c'est encore là, c'est encore présent. Il y a quelque chose d'une sorte de traumatisme national qui est enfoui par le temps, mais dès que on le titille un peu, paf, ça ressort, et parfois ça ressort quasiment à l'état intact. Voilà, j'ai vu des gens au bord des larmes en train de raconter des choses qu'ils avaient vécues 60 ans auparavant, comme si ça s'était passé la semaine d'avant. Et ça, c'est quelque chose de très très troublant, de voir que sous une fine couche d'oubli, il y a quelque chose qui reste là, qui est très très puissant, et qui fait que en fait l'Algérie, c'est pas tout à fait un autre pays, c'est pas tout à fait l'étranger. Ça fait partie de l'histoire de France, et ça fait partie même de l'imaginaire français contemporain, de façon très très intense. Mais comme la France fait partie également de l'histoire algérienne et de l'imaginaire algérien contemporain, nous sommes liés. Nous sommes cousins. et c'est entre cousins qu'on se déteste bien. Donc c'est pour ça que il y a quelque chose qui est très un lien très tendu en fait entre nous, Algérie et France. Alors, il y avait quelque chose que j'avais pas fait attention en écrivant dans mon dernier roman, il y a l'histoire donc d'un ancien Algérien, il se retrouve habité dans un grand ensemble et sur le palier la porte en face, c'est une famille d'Algériens. J'étais en Algérie au Salon du Livre et là l'animateur me dit c'est en effet il lui arrive un drôle de truc, cette ancienne d'Algérie qui se retrouve avec une famille d'Algériens juste en face. C'est la situation de la France. La France c'est ça. France et Algérie vivent sur le même palier. C'est comme ça. Bien. Donc puisqu'il est question de l'état actuel de l'Algérie, je veux commencer par une anecdote. Ouais, ça c'est le truc du romancier, ça pense par petites histoires. J'ai rencontré il y a quelque temps, c'était au printemps dernier. J'étais dans un institut français à l'étranger, et puis il y avait un attaché, alors c'est un attaché culturel d'ambassade qui faisait directeur de l'institut français. Enfin, je suis pas très fort sur les fonctions. Hein. Enfin voilà, il s'occupait de l'Institut français, donc comme je venais à l'Institut français, il s'occupait un peu de moi et de nous, on était un certain nombre. Et on a discuté, c'était un jeune homme, 35 ans, charmant, élégant, bien habillé, avec une grande intelligence, il parlait avec volubilité et habileté, énarque, qui avait une belle ambition, voilà. Et il s'appelait Mohamed. C'était en fait quelqu'un qui était d'origine algérienne. Mais vraiment, c'était l'exemple de la méritocratie française. C'est-à-dire que lui, il était issu d'une petite cité, d'une petite ville de province. Ses parents étaient de milieux populaires et il avait gravi tous les échelons de la méritocratie française jusqu'à l'ENA. Et jusque donc là, pour l'instant, il était attaché dans un ambassade. Il pensait faire une belle carrière dans la diplomatie française, tout en s'appelant Mohamed. Bon, garçon charmant. Et là, il me confie un truc. Il me dit, en fait, depuis quelques mois, quand je vois ce qui se passe en Algérie, ça me pose un problème. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie que je suis fier d'être algérien. Et ça le faisait vaciller. C'est-à-dire qu'il avait vécu toute sa vie dans un souci d'intégration le plus total, d'être français, voilà, totalement, le français au mieux, hein, croire en l'État et dans les grandes écoles, il n'y a pas plus français que ça. Et son identité algérienne, c'est vrai que l'Algérie, c'est un pays un peu chaotique, largement corrompu, assez dictatorial, ça fait pas envie. Donc lui, il avait vraiment fait un choix. Et là, devant les manifestations qui se répétaient de vendredi en vendredi, il se sentait fier d'être algérien. Et ça faisait vaciller son identité. Il n'avait jamais été fier avant. Et c'est vrai que quand on regarde ces manifestations, elles sont extraordinaires. C'est-à-dire que il y a un monde fou, c'est paisible, c'est joyeux, il n'y a pas de violence. Les islamistes sont soigneusement, soit évacués, soit il y a une sorte de cordon sanitaire autour d'eux pour qu'ils aillent pas se mêler à tout le monde. On casse rien, on salit pas, on ramasse les déchets. Il y a quelque chose d'extraordinaire de ce peuple qui va dans la rue et qui dit on n'en veut plus. De quoi ? Alors au début c'était Bouteflika, j'ai bien aimé l'expression déposer Bouteflika, alors j'imagine qu'en effet à un moment donné c'est comme une statue, on le déboulonne et on le pose, le pauvre homme, le seul président du monde qui parle pas, qui bouge pas, mais c'était quand même de trop. Et en fait ils disent, les Algériens disent, bon le roi est nu là, c'est pas possible, c'est pas possible d'être gouverné par cette mafia militaro-sécuritaire, mais en plus par une sorte de momie, c'est ridicule. Et ils viennent le dire. Ils viennent dire tout simplement, sans violence, de façon très rationnelle et raisonnable, non, ça suffit. C'est pas possible. Nous vivons dans une situation impossible. Nous sommes un pays riche, plein de pauvres. C'est pas possible. Donc, il y a quelque chose d'admirable dans ces manifestations. Alors en effet, ils ont eu un petit peu, gain de cause, puisqu'on a déboulonné la momie. Alors après, il y a eu manifestement des tractations. On a liquidé quelques caciques. Mais après, pas grand chose. C'est vrai que les élections qui y viennent, bon, sont un peu une mascarade, puisque le système de pouvoir en Algérie ne bouge pas. Il est confisqué depuis 1965 par les militaires. Et s'il y a un truc qui marche en Algérie, c'est le système sécuritaire. Donc, c'est un système qui est à la fois militaire, sécuritaire et économique, parce que finalement, c'est une façon d'avoir la main sur toute l'activité économique algérienne. Et comment cela peut-il bouger? Et c'est là que j'ai une interrogation, j'ai un doute, j'ai une inquiétude. Car ces manifestations admirables de civisme, de raison, de calme, continuent. Mais en face, on a un système de pouvoir qui est extrêmement organisé, qui plonge ses racines dans toute la société, qui a la main sur tout. Et il faudrait penser que ce système-là va rendre les clés, va partir de lui-même. Et c'est là qu'il y a une inquiétude, et c'est là que le peuple algérien est encore une fois admirable de continuer de façon obstinée à demander. Alors, il y a quelques semaines, j'étais au Salon du Livre d'Alger, et là, après qu'on m'ait eu fait signer un petit papier où je déclarais que je ne me mêlais de rien, ça c'était assez drôle, première fois de ma vie j'arrive dans un pays où pour présenter des livres et on me fait signer ça, voilà, sur l'honneur je me mêle de rien. Bon, mais je me promenais dans Alger et puis je tombe sur une manif. Bon, je suis pas parjure, hein, j'ai pas fait exprès. Comme c'était pas un vendredi, je pensais qu'il n'y en avait pas les autres jours, mais il y en avait quand même les autres jours. Mais ces manifs sont extraordinaires. Elles rassemblent des gens d'une grande diversité, des jeunes, des gens âgés, des gens de classe moyenne, des gens de milieux beaucoup plus populaires, des gamins, des familles, des femmes voilées, d'autres qui n'en sont pas. Et tout le monde, extrêmement bien rangé, défile avec une grande dignité, lentement, en chantant des chants de supporters dont on a trafiqué les paroles, avec un service d'ordre discret et bienveillant. Et puis, autour, il y a des centaines et des centaines de policiers. Mais ils ont un équipement anti-émeute, mais ils ont le casque accroché à la ceinture, ils regardent passer, ils sourient, pour l'instant tout va bien. Quand les jeunes sont là, c'est un petit peu plus agité, leur rôle c'est un petit peu de canaliser cette foule. Mais moi j'ai été frappé par le calme, la dignité et la diversité de ces manifestations. C'était quelque chose de saisissant. C'était vraiment le peuple raisonnable et conscient qui demandait avec fermeté que les choses changent. Bon, comment ça peut changer? Franchement, là, c'est quelque chose qui est qui me pose problème. Est-ce que un système aussi bien organisé que ce système de pouvoir algérien peut vraiment de lui-même se quitter le pouvoir? Alors on peut peut-être penser que comme il y a des factions, des clans, etc., on peut imaginer qu'à un moment donné, pour sauver les meubles, un des clans va éliminer les autres et accepter cette demande démocratique. On peut imaginer que il y a quelques règlements de compte entre généraux et que finalement ceux qui en sortent vainqueurs soient ceux qui confient le pouvoir à une démocratie algérienne. Voilà, mais ça c'est de la supputation. J'ai entendu ce matin quelque chose d'assez beau. J'avais jamais entendu exprimer comme ça. C'était Jean-Pierre Filiu qui parlait à la radio. Et il disait, l'Algérie a une grande ressource. Bon, il y a le pétrole et le gaz, bien sûr, mais l'autre grande ressource, c'est le patriotisme algérien. Il y a quelque chose qui est toujours frappant chez les Algériens, c'est l'espèce de fierté nationale. La fierté nationale qui est... Alors, tu peux prendre parfois des aspects un peu raides, un peu agaçants, un peu pénibles, surtout quand on doit aller chercher son visa dans le consulat, c'est des fois c'est un peu raide. Mais il y a quelque chose qui est là, qui est permanent, c'est-à-dire tous les Algériens ont été éduqués dans la grande mythologie de la guerre de libération. Une version un peu expurgée. Mais bon, et il y a ça qui est très très présent, c'est-à-dire que la conscience d'avoir fait nation, d'avoir fait État, de l'avoir fait par eux-mêmes, d'en être responsable, est quelque chose qui est vachement fort là dans cet imaginaire algérien. Et j'avais l'impression que dans ces manifestations, dans celles que j'ai vues, il y avait ça qui s'exprimait, il y avait cette espèce de fierté, dignité, de vouloir avoir enfin un État à leur mesure, dont qui serait digne d'eux. Mais c'est comme à l'époque en Tunisie, Ben Ali était tellement caricaturalement mafieux que bon, les Tunisiens se soulevaient en disant que voilà, ils méritaient pas ça. Ben, en Algérie, il y a ça, c'est-à-dire ce désir du peuple d'avoir enfin un État démocratique qui n'a jamais eu lieu. Peut-être un peu, bon, mais c'était très chaotique entre 62 et 65. Mais depuis 65, c'est une dictature militaire autoritaire, socialiste de surcroît. Et donc là, enfin une libération, enfin une démocratie, enfin un pays normal. Ce sont les souhaits finalement des Algériens. Et comme il y a l'espèce d'épouvantail de la terrifiante décennie 90, personne n'a envie de violence. Personne n'imagine, même si le pouvoir au bout du fusil, c'est quand même enraciné dans l'imaginaire algérien. C'est bon, ça a été rejoué. Personne n'en veut plus de tout ça. C'est trop monstrueux. Donc voilà. Je suis perplexe sur la suite. Je suis admiratif devant cette obstination, cette tranquille obstination du peuple algérien. Je me dis qu'il y a quelque chose de très beau qui se passe là. Après, comment ce complexe économico-sécuritaire va lâcher prise? Finalement, je l'ignore, et j'ai bien l'impression que tout le monde l'ignore plus ou moins. Mais peut-être que Benjamin, qui est un vrai historien, peut dire des choses là-dessus.
Voilà une habile transition. Merci Alexis Génie de son intervention donc dans le cadre de ces mardis d'éthique publique du Centre Sèvres qui porte donc sur l'Algérie à la veille des élections. Et donc je laisse la parole immédiatement à Benjamin Stora.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, si vous êtes venus si nombreux ce soir, c'est que, bien entendu, non seulement vous intéressez en général à l'Algérie, mais c'est que vous connaissez, je pense, la situation algérienne. Donc, il n'est pas dans mon propos, bien sûr, de raconter ce qui se passe en ce moment en Algérie, mais d'essayer plutôt de réfléchir tous ensemble à un certain nombre de questions sur ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. La première question qu'on peut se poser, c'est celle de la rapidité d'effondrement du système politique autour de Bouteflika. Lorsque Bouteflika se présente pour le cinquième mandat, il y a comme une sorte de résignation dans la société algérienne, de honte aussi, bien sûr, par rapport à un personnage, comme vous le savez, qui ne parlait pas, qu'on ne voyait plus depuis des années, etc. Mais on se doutait pas qu'en l'espace de quelques semaines seulement, eh bien, tout allait s'effondrer très vite. En quelques semaines seulement, vous avez eu deux anciens premiers ministres qui sont en prison, Ahmed Sellal et Yahya, cinq anciens ministres qui sont en prison, dont une ministre qui est emblématique en Algérie, qui est très connue, qui s'appelle Khalida Toumi, qui a été une figure des années 90, mais surtout une inamovible ministre de la culture en Algérie. 5 ministres de plein exercice qui se sont retrouvés en prison, 10 grands patrons appartenant à l'équivalent du MEDEF. Tout ça, ça s'est fait en l'espace de 2 mois. Il faut partir de là quand même. C'est-à-dire que personne n'avait pu envisager que cette candidature allait provoquer un tel ébranlement. Alors on parle beaucoup de l'ébranlement de la rue, j'y reviendrai bien sûr, et les singularités de ces manifestations de rue. Mais d'abord, commençons par l'incroyable rapidité d'effondrement du système, puisque en l'espace de quelques jours, l'Organisation des Anciens Combattants, l'ONM, l'Association des Enfants de Martyrs, les partis politiques officiels comme le FLN et le RND, et les syndicats, le syndicat officiel du GTA, ont tous successivement retiré leur appui au clan qui était au pouvoir. Et puis, naturellement, l'armée, qui a, elle aussi, retiré, disons, sa confiance à ce clan, et tout ce monde s'est retrouvé en prison. Donc il faut quand même partir de là. C'est-à-dire que tout ce monde-là est aujourd'hui à l'ombre. Je veux dire qu'on a du mal à percevoir l'ampleur d'abord de ce séisme politique, j'allais presque dire institutionnel, et qui s'apparente, lorsqu'on a ce type de situation, c'est Lénine qui disait, lorsque en bas on ne peut plus, en bas on, et en haut on ne veut plus, ça s'appelle une révolution. Eh ben oui, c'est une révolution, parce que vous avez des manifestations monstres dans la rue, et toute une série d'anciens dignitaires de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'ancien régime, qui sont aujourd'hui en prison. Il n'y a pas d'équivalent de cette profondeur, disons, des arrestations de dignitaires, de haut placés, etc., dans ce qui s'est passé dans l'ensemble du reste du monde arabe. Voilà, ça c'est absolument incroyable. Et il faut d'abord commencer par là, parce que sinon, on pense qu'il n'y a pas d'issue, que c'est toujours pareil, les mouvements, la rue, les jeunes, les femmes, tout ça, d'accord. Mais commençons d'abord par là. C'est-à-dire qu'il y a un appareil d'État fragilisé en Algérie. Un appareil d'État qui n'est pas sûr de lui. Ça veut dire un appareil d'État qui lui-même, porté par une armée qui n'est pas forcément homogène. Je vous dis tout cela parce que, vous savez, l'Algérie, c'est un immense pays, grand comme 5 fois la France, et qui a des frontières très importantes avec un certain nombre de pays, comme le Mali, comme le Niger, comme la Libye, ces pays dans lesquels l'armée française est engagée au combat, comme vous le savez, depuis plusieurs années. Et si je vous dis cela, c'est que lorsqu'on discute et qu'on réfléchit sur l'Algérie, on pense toujours au Nord, Alger, Oran, Constantine, les manifestations, les jeunes. Mais attention, l'Algérie, c'est le Sud. C'est le Sahara. C'est toute la menace qui existe dans l'immensité de la frontière saharienne. L'immensité de la frontière saharienne. On n'en parle jamais. Ici, en France, ça n'existe pas. Or, qui est-ce qui est et qui protège, entre guillemets, cette immense frontière saharienne? C'est qui? C'est quel pays qui est, disons, littéralement en première ligne sur ces questions-là? Bah, c'est l'Algérie, qui est la frontière avec le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye et la Tunisie. C'est quasiment, vous savez, l'Algérie est aujourd'hui le plus grand pays d'Afrique, hein, depuis la partition du Soudan. Bah, c'est le plus grand pays d'Afrique, voilà. Donc il faut quand même partir sur des choses, comment dirais-je, d'avoir une perception quand même, à la limite presque géostratégique et géopolitique, de cette question algérienne, parce que sinon, on est toujours dans les mêmes schémas, quoi, hein, la corruption, les généraux, la rue, les manifs, la mobilisation, etc. Donc commençons par là, c'est-à-dire qu'on a à la fois un immense désir de la société algérienne, et notamment de sa jeunesse, pour effectivement une société démocratique, effectivement, oui, une société réellement démocratique et un passage à l'état de droit. Et en même temps, la question très importante de l'homogénéité de la nation algérienne par rapport au péril extérieur, c'est-à-dire de tout ce que je viens de vous décrire à l'extérieur, c'est-à-dire le Mali, le Niger, la Mauritanie, etc., etc. C'est-à-dire que vous avez ce double mouvement qui rend la transition politique algérienne très compliquée. C'est ça qui rend compliquée la transition politique et démocratique algérienne. C'est-à-dire qu'il faut à la fois tenir compte, mais je vais à l'essentiel dans mon propos, je rentre pas dans les détails des manifs, etc. Il faut à la fois tenir compte de l'immense désir de démocratisation du pays et de son économie aussi, parce que c'est une économie bien sûr auto-administrée sur le modèle soviétique, et il n'y a pas d'économie puisqu'il y a une dépendance complète aux hydrocarbures. Donc il faut à la fois accomplir cette énorme révolution économique et démocratique, c'est gigantesque, puisque c'est un retard accumulé depuis très longtemps, et en même temps, faire attention à la question de la fragilité d'une armée et d'un État. Et c'est pour, je vous dis ça pourquoi ? Parce que un des mots d'ordre qu'on n'entend pas beaucoup en France, mais qui existe en Algérie, c'est « l'armée et le peuple ne seront jamais désunis ». C'est un des mots d'ordre des manifestants algériens. C'est un des mots d'ordre. Pourquoi ? Parce qu'il y a, disons, cette volonté de faire nation sur le modèle d'une tradition jacobine héritée de la France, d'ailleurs, de la crainte d'une dislocation de la nation. C'est pour ça que vous verrez tous les manifestants en Algérie, de Constantine à Oran, qui s'enveloppent du drapeau algérien. Parce que il y a à la fois la volonté de faire nation et la peur de la séparation, du régionalisme, et donc, pas simplement de la question des islamistes, mais aussi de la question berbère, qui est une immense question en Algérie, de la question de la berbérité politique, pas tellement culturelle, mais de la berbérité politique. Et c'est là les grands défis de l'Algérie, c'est-à-dire le passage à la démocratie politique et économique, le fait de respecter les identités particulières, brimées pendant très longtemps, et conserver la possibilité d'un État de droit, mais centralisé, dans des frontières immenses et dans un pays qui est quasiment un empire. Qui est quasiment un empire. Parce que quand vous regardez l'Algérie, vous y voyez bien sûr les grandes villes, mais vous voyez des grandes régions comme la Kabylie, comme le Mzab, comme les Aurès. Enfin, je vais pas ici faire le détail de tout ce qu'est l'Algérie, c'est comme un empire. Hein, c'est une formule d'Aït Ahmed, un grand leader algérien, qui employait cette expression sur le Maghreb, qui faisait bondir les voisins marocains et tunisiens, disait l'Algérie, c'est dans le fond le grand oiseau, et les deux autres pays sont les ailes de ce grand oiseau. Donc alors évidemment, les Marocains n'étaient pas du tout contents, je ne parle même pas des Tunisiens. Bien, fermons cette parenthèse de Hossein Aït Ahmed. Donc on a par conséquent un défi qui est redoutable, un défi compliqué. Et pour assumer ce défi, disons, de à la fois faire nation et construire la démocratie, le deuxième grand défi, c'est quoi ? Sur quel personnel politique ? Sur quel homme et femme on peut s'appuyer pour accomplir et réaliser ces défis ? Comment les porter ? Avec quel type de personnel ? Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un processus de type révolutionnaire, où chacun des personnages politiques qui veut émerger se fait immédiatement chasser. Vous savez, c'est le processus de la révolution qui mange sans arrêt ses enfants. Alors, je ne vais pas vous faire tous les détails de toutes les révolutions, depuis la révolution française jusqu'à la révolution russe, en passant par la révolution chinoise et tout ce que vous voudrez. À chaque fois, vous connaissez l'histoire, et même la révolution algérienne d'ailleurs, très important. C'est-à-dire que ceux qui ont été à l'origine du déclenchement du processus révolutionnaire ne sont pas forcément ceux qui vont ensuite être à l'arrivée de l'institution de l'État fort et bonapartiste. Ce ne sont pas les mêmes, généralement. Et l'exemple le plus célèbre pour les Algériens, c'est l'Algérie elle-même, où les initiateurs de cette révolution soit ont été assassinés, soit ont été exilés, et n'ont plus retrouvé la place qui aurait dû être la leur dans la construction d'un État algérien souverain. Je ferme cette parenthèse. Et donc, on a bien du mal aujourd'hui, dans un processus révolutionnaire en cours, à voir quels peuvent être le type de personnel politique qui surgirait, disons, de la rue pour pouvoir porter cette espérance démocratique. Et c'est là que les gens du pouvoir et de l'armée manœuvrent politiquement en disant « Oui, vous êtes dans un processus de démocratie que nous approuvons, mais avec quel interlocuteur pouvons-nous discuter ?» Quels sont vos interlocuteurs ? Où sont-ils ? Et c'est là le piège, la difficulté, la question politique principale qui est posée. Et c'est là qu'ils ont imposé la question du 12 décembre comme la date butoir, comme la date électorale. Après avoir reculé sur le 5 juillet, ils sont allés sur le 12 décembre. Parce que, précisément, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, nous avons une solution politique, mais quelle est la vôtre ? Quelle est votre solution politique ? Et à ce moment-là, l'opposition algérienne qui existe dit, regardez comme c'est compliqué, nous n'avons jamais été contre des élections, mais ces élections, il faut qu'elles se déroulent dans un sens qui va vers une assemblée constituante. Mais c'est très compliqué pour le peuple algérien, ça. C'est très compliqué pour un paysan algérien des Aurès de dire je vais pas aller voter parce que j'attends la constituante qui va créer les conditions de la démocratie. Oula ! Vous savez, l'Algérie, c'est pas que des villes, il y a beaucoup de campagnes, il y a beaucoup de paysans. Hein, faut faire. Si ceux qui ont fait leur service militaire en Algérie savent très bien de quoi je parle, hein, parce que c'est un pays profond. Vous savez. En d'autres termes, on a un pays réel, mais qui se heurte à un état profond. C'est ça la question. C'est-à-dire que on a un état profond qui existe à ce niveau-là. Et donc, la question qui se trouve posée, c'est que les cinq candidats, quand on dit en France, ce sont des classiques du régime, etc. Eh non, Benflis, il a été chassé par Bouteflika en 2003. Il est dans l'opposition depuis 2003. Et on est en 2020. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire que du point de vue de la caractérisation politique qu'on peut faire des différents candidats en lice, vous avez des gens qui effectivement ont appartenu au système longtemps, vous savez qu'ils sont restés jusqu'au bout, hein, puis sont partis 3 mois avant en disant « je suis un opposant », on connaît ça en France quand même, hein, on a déjà vu hein, des scénarios de ce type, c'est classique, mais vous avez aussi des gens qui ont été hors du pouvoir tout en ayant participé depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 18 ans, et les militaires sont suffisamment malins pour pousser effectivement des candidats qui n'ont pas exercé le pouvoir juste pendant 20 ans. Le cas de Benflis, qui a quitté le pouvoir en 2003, et on est en 2020. Mais vous avez d'autres candidats, comme Tebboune. Alors je ne vais pas ici vous les énumérer leur CV. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention, ici en France, aux caractérisations hâtives lorsqu'il est question d'un pays aussi important, aussi sensible, aussi névralgique que l'Algérie. Il faut connaître son personnel politique, corrompu ou pas, classique ou pas. Faut connaître ces généraux, faut connaître d'où ils viennent, quelle est leur trajectoire, quelle est leur biographie. Vous savez, les Algériens connaissent très bien les hommes politiques français, mais bien peu de Français connaissent les hommes politiques algériens, que ce soit ceux qui sont en prison aujourd'hui ou ceux qui sont réellement candidats. Ils n'en connaissent pas, ni les uns ni les autres. Oh, il faut connaître les autres. Il faut connaître les trajectoires, parce que sinon c'est compliqué. Comme il faut connaître aussi le fait que certaines régions d'Algérie sont hyper mobilisées dans le refus du vote, la Kabylie, où ils disent « non, il n'y aura pas de vote, il n'y aura pas de bulletin, il n'y aura pas de bureau, il n'y aura rien du tout ». Mais est-ce que c'est le cas du Constantinois? Est-ce que c'est le cas du Mzab? Est-ce que c'est le cas de l'Oranie? Est-ce que c'est le cas du Sahara? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que effectivement, l'armée algérienne, forte de ses 300 000 hommes, c'est pas une petite armée, hein, c'est la plus grande armée d'Afrique aujourd'hui. Voilà, la plus équipée, c'est la plus suréquipée d'ailleurs. Bon, cette armée-là, formée de conscrits d'ailleurs, a des ramifications dans tout le pays. C'est pas simplement une région, c'est tout le pays. Et donc, s'ils décident d'aller aux élections pour de bon, c'est-à-dire le 12 décembre, bien malin, celui qui dira, les Algériens ne vont pas aller voter. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est le taux de participation. C'est ça la grande question du 12 décembre, c'est le taux de participation. Et bien malin, effectivement, Alexis a raison, bien malin, celui qui dira, ou qui pourrait dire, non, personne n'ira voter le 12 décembre. Faut pas s'avancer là-dessus. Faut pas s'avancer là-dessus, parce que l'Algérie, c'est bien sûr les manifestants, jeunes, enthousiastes, étudiants, beaucoup d'étudiants. Le mardi, les manifs étudiantes. Hein, le vendredi, c'est les manifs après la mosquée. On a effectivement cette configuration sociologique. Mais l'Algérie, c'est aussi les Zaouias. Les Zaouias, ce sont des confréries religieuses qui quadrillent le pays. L'Algérie, c'est aussi, bien sûr, l'appareil politique des mosquées. Pas dans le sens islamiste du terme, hein, mais dans le sens religieux, tout simplement. C'est pas seulement... Vous savez, dès qu'on parle d'islam, on a tout de suite les islamistes. Non, c'est pas si simple. Ce qui a fait la force de Bouteflika pendant 15 ans, ça a été en grande partie le fait qu'il s'est appuyé sur le réseau des mosquées et des zaouias, mais pas en plaçant des accords en sous-main avec ceux qui tenaient les mosquées, qui étaient en particulier les islamistes. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que l'armée qui est au pouvoir, c'est une question, c'est une hypothèse hein, que je soulève, qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que cette armée qui décide d'aller aux élections du 12 décembre n'a pas un accord politique avec des mouvements religieux aujourd'hui en Algérie? Qu'est-ce qui nous dit qu'elle n'a pas cet accord politique-là? Parce que c'est de la politique. Et c'est pas simplement, des questions d'islamistes, etc., etc. C'est de la politique. C'est-à-dire, c'est des réseaux politiques extrêmement puissants et qui quadrillent le pays et qui organisent le maillage du pays. C'est-à-dire que vous avez l'armée, bien sûr, mais vous avez aussi le maillage des confréries religieuses. Je dis ça parce que une des grandes difficultés qu'a eu la France à contrôler l'Algérie, ça a été ça aussi. L'immensité, les confréries. Je veux dire, la façon dont ce pays organisait ce maillage dans le bled, dans les campagnes. Donc, moi, je suis prudent, effectivement, sur cette question-là, parce que le désir, la puissance démocratique inouïe, telle que l'Algérie le vit aujourd'hui, et qui a existé auparavant. Faut pas croire que l'Algérie a vécu dans l'obscurité pendant 60 ans. Il y a eu les printemps berbères de 1980, qui a été extrêmement puissant. La bataille des femmes en Algérie en 1983, contre le code de la famille. Bataille extraordinaire. La bataille en 88 pour le pluralisme politique, hein, en octobre 88, qui a permis le passage au multipartisme. Et la création d'une presse libre et indépendante en Algérie qui existe, avec des journaux comme Liberté, comme le quotidien d'Oran, comme El Watan, tout ça, ça existe. C'est pas un pays qui vit dans l'obscurité totale, disons des généraux et puis point final. Hein. Je veux dire, sinon c'est incompréhensible. Sinon on comprendrait pas pourquoi il y a autant de gens dans les rues, pourquoi il y a tout ça. Donc il y a par conséquent eu une antériorité de combat qui à chaque fois s'est heurtée à la plasticité d'un pouvoir politique et militaire qui savait à chaque fois s'adapter. C'est ça que je veux dire par là. Et qu'aujourd'hui, la plasticité, disons, de ce pouvoir, c'est de jouer sur une carte politique très importante qui est le nationalisme et le néo-nationalisme en particulier, donc le refus du régionalisme, donc la peur de la séparation régionaliste. C'est là-dessus qu'il joue. Il joue beaucoup là, sur cette fibre-là, qui est très forte en Algérie, effectivement, parce que le facteur de légitimité principale des pouvoirs qui se sont succédés en Algérie, naturellement, c'était pas les urnes, c'était l'histoire. L'histoire de la guerre, l'histoire de l'anticolonialisme, c'était ça, le réservoir, disons, de légitimation symbolique, il était là. Hein. Et donc, à partir de là, ce réservoir-là, il s'est pas épuisé, il est toujours là. C'est un réservoir qui fonctionne toujours. Et donc, par conséquent, il y a cette volonté-là. Mais en même temps, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, je terminerai là-dessus, vous avez un immense désir de respect des identités particulières. Je pense aux Kabyles en particulier, qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont été en première ligne en 80, ils ont été en première ligne pendant la guerre civile, ils ont été en première ligne en 2001, lorsqu'il y a eu écrasement de la protestation du mouvement Kabyle de 2001, et qu'aujourd'hui, ils sont pas prêts à reculer. Bah, sur le plan politique, je parle, hein, c'est pas sûr. Ils sont pas prêts de reculer. Mais est-ce que aujourd'hui, la volonté d'affirmation d'une identité particulière berbère signifie que c'est partagé par l'ensemble du pays? Moi, ma question, elle est là. Vous voyez, je veux pas doucher les enthousiasmes, hein, mais est-ce que ça fait une sorte de porosité généralisée à travers l'ensemble du pays ou non? J'en doute. Personnellement, j'en doute, parce que ce qui est le plus fort, et je terminerai sur cette phrase, ce qui est le plus fort en Algérie aujourd'hui, c'est à la fois faire nation, rester groupé, et donc le rapport à la France, bien sûr, qui est problématique pour ça, pour se faire nation, et en même temps, essayer de tenir les idéaux démocratiques. C'est très, très dur. Cette bataille-là est très, très difficile à mener, parce qu'elle doit tenir les deux bouts de cette histoire en même temps.
Merci. Merci Benjamin Stora pour à la fois ses analyses et ses rappels. J'ai envie de poser une question par rapport à la situation géostratégique que vous avez décrite au départ. Les deux voisins immédiats, les deux ailes disproportionnées, c'est la Tunisie et le Maroc. Donc la Tunisie a connu un processus de démocratisation avec beaucoup de soubresauts, mais enfin bon, il y a encore eu des élections récemment. Au Maroc, c'est plutôt la société civile qui semble bouger, notamment sur les questions de demeure, où il y a eu pas mal de mouvements ces derniers temps. Comment est-ce que c'est perçu en Algérie? Comment les deux autres pays voient les événements, les manifestations? Est-ce que, vous avez parlé des berbères, est-ce que la question berbère, elle n'est pas seulement algérienne, elle est aussi marocaine? Est-ce qu'il y a des résonances au Maroc par rapport à la situation de la Kabylie? Voilà. Est-ce qu'on peut resituer l'Algérie dans l'ensemble du Maghreb?
D'abord, une question, et c'est soulevé dans la campagne en ce moment en Algérie, parce qu'il faut lire les programmes des candidats, et faut voir ce qu'ils expliquent dans les meetings. Le problème de l'ouverture ou pas des frontières avec le Maroc est une question algérienne, question politique qui est posée en Algérie aujourd'hui. Elle l'était pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était fermé, c'est terminé, attention, on est contre le Maroc, parce que le Maroc, ça apporte le hashish, la délinquance et tout ça. Bon. Et le Polisario, bien sûr, bon, je passe là-dessus. Donc c'était fermé, c'est fermé depuis 1994, les frontières. C'est beaucoup quand même, ça fait longtemps que c'est fermé. Et là, pour la première fois, il y a un tabou qui a été cassé en Algérie par deux candidats en particulier, et qui ont dit, il faudrait peut-être qu'on pense à la construction de l'Union du Maghreb, et qu'on rouvre les frontières avec le Maroc. Alors, dans le fracas général qui secoue l'Algérie, ce type de choses sont un peu passées inaperçues. Mais pas à mon oreille, à moi. Là, je me suis dit, tiens, il y a un truc qui est en train de bouger. C'est un candidat qui s'appelle Belaïd qui a posé cette question. Alors, ça a soulevé une petite tempête dans ce qu'on appelle le milieu islamo-conservateur algérien ultra-nationaliste, hein, et qui a dit, non, ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et puis, c'est passé. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les événements, comme on dit, algériens, sont naturellement très regardé au Maroc et en Tunisie, très regardé. Hein. C'est observé à la loupe. Il y a une peur aussi des régimes politiques en place dans tous ces pays, parce que comment tout cela va se terminer, quel type de transition va s'organiser, personne ne le sait vraiment. Et donc il y a une très grande attention. Deuxième aspect, bien sûr que la question berbère est posée. Parce que le soulèvement au Maroc de l'année dernière, c'est pas fait sur les mœurs, mais sur la question sociale et identitaire berbère, le RIF. Le soulèvement du RIF l'année dernière, qui est à la fois une question sociale, la grande misère sociale du RIF. Vous savez, c'est l'histoire de ce malheureux vendeur de poissons qui a été pris dans l'étau, dans la mâchoire d'une benne, d'un camion benne, et tout le RIF s'est soulevé pendant plusieurs mois. Et naturellement, les revendications de berbérité politique ont ressurgi à ce moment-là. Et on fait écho, bien sûr, à ce qui se passait dans le reste de l'Afrique du Nord. Donc on a par conséquent une très grande attention. Attention aussi très forte des Algériens par rapport à la transition tunisienne, qui se discute beaucoup en Algérie. Il y a beaucoup de débats sur, dans le fond, comment s'organise la transition tunisienne. Est-ce que l'élection du nouveau président tunisien, c'est pas quelque part le retour politique des islamistes en Tunisie, à travers le contrôle du Parlement, de la présidence de la République et du Premier ministre? Ça fait beaucoup. Donc à partir de là, vous avez effectivement une interrogation politique, hein, sur la place ou non du type d'accord qu'on est capable de passer pour préserver un espace démocratique avec les islamistes. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? C'est un débat en Algérie. C'est-à-dire que les gens, ils observent beaucoup ça, quoi. Ils disent... parce que la transition tunisienne a été quelque part présentée aussi comme un modèle, hein, politique, hein, par rapport à Ben Ali, quand il est parti, les élections démocratiques, l'établissement d'une assemblée constituante, pratiquement, avec toute une série de revendications démocratiques. Bref, au bout de plusieurs années de bataille, le résultat, c'est celui-là aujourd'hui, avec un taux d'abstention énorme en Tunisie. C'est comme ça d'ailleurs que les islamistes sont arrivés à prendre la présidence du Parlement, à cause du taux d'abstention gigantesque dans ce pays. C'est-à-dire du découragement, de la lassitude, hein, de la société qui a ouvert la voie, ce découragement qui a ouvert la voie aux islamistes. Donc là aussi on est dans une interrogation de même type, c'est-à-dire que vous avez certaines personnes, pas tous, mais une petite élite qui s'interroge en Algérie en disant, dans le fond, est-ce que en voulant s'abstenir sur les élections du 12 décembre, est-ce qu'on laisse pas, disons, la possibilité d'un terrain qui s'ouvrirait pour un accord politique entre l'armée et les islamistes? Ça, c'est de la politique pure, hein. C'est-à-dire qu'on est, il y a des gens qui s'interrogent là-dessus, quoi. C'est-à-dire des accords possibles, des accords politiques possibles qui peuvent exister. Donc vous voyez que les débats, je prends que ces deux exemples, hein, le RIF d'un côté et la question tunisienne de l'autre, pour vous dire que on est dans un espace transversal, hein, de l'Afrique du Nord, où les gens naturellement qui parlent la même langue, qui disons sont dans les mêmes ritualisations religieuses, qui sont dans les mêmes traditions culturelles et civilisationnelles, naturellement, considèrent comme une anomalie, je veux dire, cette séparation, cette question des frontières. Hein. Donc à la fois la frontière, c'est quelque chose qui donne du sens de la nation, et la frontière, c'est aussi ce qui isole des uns par rapport aux autres. Vous voyez le problème.
Merci Génie, comment vous réagissez, vous, par rapport à ce que nous venons d'entendre, et aussi par rapport à tous les propos que vous tenez, ces personnes que vous rencontrez comme romanciers et qui ont toutes quelque chose à dire sur l'Algérie. C'est quoi cette vision qu'elles ont aujourd'hui de ce pays?
Alors pour revenir un peu sur ce qui a été dit, Benjamin, là c'est vrai que... Et voilà. Donc, par rapport à ce qui a été dit par Benjamin, c'est vrai que, par exemple, le lien entre le maillage des mosquées, l'islam, etc., et l'État, le pouvoir, est très très frappant en Algérie, avec l'emblème, c'est cette plus grande mosquée d'Afrique qui est construite à Alger. Donc, il y a des gros investissements qui sont faits pour du côté des comment on peut les appeler, les islamistes qui ne sont pas les terroristes des années 90. Mais en effet, il y a cette énorme présence d'un islam institutionnel en Algérie. Et c'est probablement une force politique très importante et peu visible de l'extérieur. Donc une alliance en effet pourrait tout à fait être possible. Par rapport à la fragilisation de l'État algérien, c'est vrai que un certain nombre de de dirigeants se sont trouvés en prison, sont tombés très très vite. Ne serait-ce que Monsieur Lefrère, Monsieur 10%, le frère d'Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que c'est la marque d'une véritable fragilisation de l'État, ou est-ce que c'est une sorte de ravalement un peu cosmétique? On élimine ceux qui sont trop visiblement corrompus, ou alors c'est aussi une des caractéristiques de ce genre d'État à la fois sécuritaire, autoritaire, où il y a des hommes politiques qui sont en place, qui exercent le pouvoir, mais dans un système d'alliance extrêmement serré et instable. C'est-à-dire que si les choses changent légèrement, si les structures qui exercent véritablement le pouvoir sans obligatoirement se montrer décident de changement d'alliance, ces gens-là, ils sont extrêmement exposés. Et ils disparaissent, ils sont arrêtés, on leur fait des procès, on les accuse de tout. C'est jamais que des reconfigurations. C'est un peu le principe de la kremlinologie, vieille science disparue, où on regardait sur les photos qui était le plus proche du pouvoir, qui avait disparu par rapport à la photo précédente, et on en déduisait des changements d'alliance, des changements d'équilibre. C'est-à-dire que, en effet, le pouvoir algérien explicite et visible a pris un coup, a été déstructuré. Cela veut-il dire que le pouvoir réel a véritablement changé? Ça, je sais pas. Voilà. Est-ce qu'il est vraiment fragilisé? Ça, en effet, je sais pas. Et c'est vrai que il y a toujours cette espèce de chantage à l'unité et puis de chantage patriotique qui finalement maintient quand même ce pouvoir en place. Donc ça change. Dans quel sens? Voilà. Ça, c'est, je ne sais pas. Par rapport à ce que peuvent dire les Algériens, c'est vrai que pour moi, il y a un biais assez fort. C'est-à-dire que quand il m'arrive d'aller en Algérie, quand je rencontre des Algériens ici en France, je rencontre des intellectuels francophones qui naviguent entre France et Algérie, d'une rive à l'autre, comme ils disent. C'est une part de la population qui existe, mais qui n'est pas toute l'Algérie. C'est-à-dire que moi je connais surtout ces Algériens de classe moyenne supérieure, diplômés, démocratiques, et qui sont très enthousiastes face à ça. C'est-à-dire que tous ceux que j'ai pu voir rêvent en effet d'une Algérie démocratique, débarrassée de cette dictature. Mais je ne connais pas le pays profond, je ne connais pas les paysans des Aurès, je ne connais pas véritablement le peuple algérien. Je rencontre, sa classe culturelle. Voilà, c'est parce que je suis écrivain et j'ai accès à l'Algérie par ses écrivains et journalistes et autres. Donc là, je suis pas un bon analyste de l'Algérie réelle. Par contre, tous ces gens dont je parle sont d'un enthousiasme sans limite pour ce qui se passe. Et c'est vrai que... mais d'un autre côté, ce sont des gens aussi qui n'ont pas un pouvoir économique énorme. Et on peut absolument s'attendre, en effet, que ces gens-là soient enthousiastes pour une démocratisation de l'Algérie. Donc là, il y a un gros biais quand même. Et comment vont basculer... ces jeunes gens, la moitié de la population est très très jeune, tous ces gens qui sont pas dans cette circulation permanente avec la France, c'est un mystère pour moi qui ne suis pas anthropologue de l'Algérie contemporaine.
Et bien sur cette note de mystère, nous terminons cette première partie de la soirée. Merci d'applaudir nos intervenants. Voilà, donc désormais nous ne sommes plus à la radio. Voilà, nous allons passer à la phase des questions de l'Assemblée. Donc un micro va circuler, même deux micros peut-être vont circuler. Nous avons l'habitude de prendre les questions par trois. Donc, merci de lever la main. Voilà, il y a une main qui se lève au milieu. Le temps que le micro soit branché, je vois une main qui se lève aussi dans le fond. Alors, le micro sera en marche. Alors, on peut peut-être commencer par la question du fond.
Merci. Deux problèmes. Celui des Kabyles, est-ce qu'il représente un facteur de déstabilisation pour l'État algérien? Deuxième question, est-ce que les Touaregs représentent aussi un facteur de déstabilisation? Et quel est le problème des frontières? Est-ce que le problème des frontières, du Sud en particulier, à partir de la... la chute de Kadhafi représente aussi un danger pour l'Algérie.
Merci. Alors, nous posons une deuxième question. Il y avait une main qui s'était levée au milieu, mais voilà. Votre tour viendra.
On m'entend ?
Oui, oui.
Je voudrais savoir quel rôle joue la France depuis le déclenchement des événements en Algérie, de la contestation anti-Bouteflika.
De la France, merci. Alors, il y avait une main qui s'était levée au début, Brigitte, au cinquième rang. Relevez la main, s'il vous plaît. Voilà.
Est-ce qu'on peut faire comparaison et limite de comparaison avec un autre mouvement de démocratisation, notamment le Soudan ? Qu'est-ce qui se passe dans les forces vives du Soudan comparé à celles de l'Algérie, qui font bien sûr, c'est sûrement deux choses différentes, mais est-ce que la comparaison peut être utile?
Voilà, donc des questions assez diverses. Benjamin. Allez, Alexis sur le Soudan.
Le Soudan, je n'y connais rien. Bon, donc ça c'est clair. Alors peut-être la première sur le mouvement Kabyle. Je me dis que en fait ce qui pose problème aux Kabyles en général, c'est l'État jacobin et autoritaire algérien. C'est-à-dire que en cas de... Enfin, il n'y a pas d'irrédentisme kabyle, il n'y a pas de volonté de d'indépendance, de sécession, etc. Il y a une volonté de démocratisation, de respect culturel, etc., de reconnaissance culturelle. Voilà. Si... Et tout ça, ça peut être accordé dans le cadre d'une Algérie unie, simplement qui abandonne un petit peu de son jacobinisme, en effet, d'origine française. Donc je ne pense pas que ça soit une menace pour l'unité algérienne que cette conscience kabyle, sauf si il y a un durcissement de l'État algérien. Là ça peut poser problème. Mais en soi, la Kabylie fait partie de l'Algérie et souhaite probablement en faire partie. Et simplement, il y a nécessité de quelques assouplissements.
Sur le rôle de la France.
Ah ça, s'il y a un rôle, il est discret hein, parce que ouais, j'ai pas d'infos là-dessus.
Et Benjamin confirme.
Et algérien profond, entre guillemets, je dirais trouble, le rôle de la France. pas net. Non, je crois que la politique française a soutenu jusqu'au bout Bouteflika, jusqu'à la chute, quoi. C'est clair, hein, ils ont cru que le clan, disons, autour de Bouteflika, notamment ce qu'on appelait le patron des services, général Toufik, allait garder, disons, la possibilité du maillage du pays avec Tartag, le général Tartag, or, ce qui a été pas prévu, c'est qu'ils sont tombés tous les deux, quoi. Donc, ils sont en prison tous les deux. Ce qui est quand même, là aussi, très important, quand même. Donc, je veux bien que ce soit pas fragilisé, mais enfin, bon, il y a quand même les deux principaux patrons de la sécurité militaire algérienne qui sont tombés dans le processus, quoi. Donc c'est un ravalement, c'est vrai, hein, Alexis, mais disons que c'est un ravalement sévère, quoi. Je veux dire, il est sévère comme ravalement, hein. Donc il y a eu par conséquent le fait, disons, d'une politique française qui, je m'avance pas trop en me disant, qui est exclusivement centrée sur la question du Sud et du Sahara, hein, sur le problème de la possibilité, disons, d'opérations communes sur le sud saharien, qui est central pour l'armée française, donc avec l'armée algérienne. Et je pense que c'est ça qui préoccupe d'abord, hein, je veux dire, l'Élysée, pour aller vite, hein. Bon, c'est la stabilisation, la stabilité politique sur les frontières sud, aussi pour répondre à la question qui était posée et qui est un danger aussi pour l'Algérie, évidemment, parce que comment voulez-vous contrôler des milliers de kilomètres de frontières sahariennes? C'est impossible, hein, je veux dire, donc même si vous installez des drones de manière très importante, même si les Américains aussi fournissent énormément d'armements extrêmement sophistiqués, etc., etc., néanmoins, il y a une difficulté importante. Donc la politique française, elle est quand même très centrée sur cette question-là, hein, et non pas sur la possibilité de pouvoir peser sur le jeu politique intérieur algérien. C'est-à-dire, vous savez, très souvent dans la politique étrangère diplomatique, dans les chancelleries ont souvent des personnages sur lesquels ils peuvent s'appuyer, jouer, promouvoir, encourager, etc. Or là, comme il y a eu beaucoup de ravalements, donc tous les personnages sur lesquels ils pouvaient s'appuyer sont en prison. Donc à partir de là, c'est compliqué, disons, pour la politique française de trouver des personnages de rechange. Vous voyez, c'est complexe là. Là, c'est compliqué. Donc il y a une très grande prudence de la France par rapport à ce qui pourrait se passer dans les semaines qui viennent. Sur le Soudan, c'est très discuté en Algérie parmi les manifestants. Pourquoi ? Parce qu'au Soudan, au terme d'une mobilisation très forte, que vous connaissez peut-être, ils sont parvenus à un accord de compromis politique avec un établissement de pouvoir à 50-50, c'est-à-dire 50 pour l'armée, 50%, hein. 50% pour l'armée, 50% pour les forces politiques d'opposition démocratique. Donc l'exemple soudanais est utilisé par une partie de l'opposition algérienne. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'opposition algérienne qui dit, dans le fond, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à s'appuyer sur l'exemple soudanais pour essayer de passer une sorte d'accord ou de compromis politique avec certains cercles de l'armée. Alors pour l'instant, cette parole telle que je viens de vous l'énoncer est inaudible. Je veux dire que celui qui s'avancerait à dire ça publiquement par rapport à ce qui se passe dans la rue, il serait éjecté immédiatement, c'est sûr. Mais il y a pas mal de gens qui pensent, disons, à la possibilité d'un compromis politique sur ce mode-là, hein, sur le mode soudanais, pour essayer dans un premier temps de stabiliser la situation. Et certains, parmi les collectifs qui existent, y compris en France, certains disaient, on pourrait proposer à certains cercles de l'armée une forme de compromis, à condition qu'ils veuillent bien, une fois de plus, reporter les élections. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre les élections. On va les reporter et on va essayer de mettre en place une structure de compromis politique. Ça a été envisagé à un moment donné. Vous savez, les Algériens, ils ne sont pas que des manifestants avec des drapeaux, hein, ils font de la politique. Hein, et c'est même des gens qui font beaucoup de politique depuis très longtemps. Donc ils réfléchissent beaucoup à toutes les combinaisons possibles et inimaginables. Et celle-là a été avancée à un moment donné. Elle était avancée par un certain nombre de collectifs. Elle n'est pas tombée totalement en désuétude, hein. C'est pas du tout, c'est pas une solution qu'il faut jeter à la poubelle, parce que si on veut parvenir à une constituante, bah il va falloir aussi mettre en place, disons, une forme de compromis politique entre certains membres de l'ancien régime, de l'armée et des mouvements démocratiques, une sorte de triumvirat politique pour arriver à une sorte d'équilibre politique permettant de nouvelles élections libres, cette fois-ci sur le modèle tunisien. Vous voyez que c'est compliqué, hein, tout ça, hein, mais ce sont des politiques internes, je veux dire, de chacun des pays. Hein, c'est, les gens font, ils discutent politique à travers les organes de presse, à travers, disons, bien entendu, différents personnels qui sont dans l'opposition depuis plus ou moins longtemps, à travers ceux aussi qui vivent en diaspora, que ce soit à Montréal ou à Paris, il y a toute une série de tractations qui s'opèrent politiques. Hein, c'est, les choses ne sont pas... sont pas simples, voilà. Maintenant, la question des Berbères, c'est une question qui se pose à l'Algérie pratiquement depuis toujours, on pourrait presque dire. Parce que la formation du mouvement nationaliste algérien, que j'ai beaucoup étudié, comme vous le savez, avec des personnages comme Bessel el Hadj, etc., dans les années 20, dans les années 30, la question berbère, la question berbérie s'était posée à cette époque-là. C'est-à-dire comment construire, disons, une nation... Qui fasse la part au particularisme, au régionalisme, hein, tout en conservant une sorte d'unité de commandement. Et ça s'est malheureusement joué en 1949, dans ce qu'on appelait la crise berbériste, où la plupart de ceux qui étaient des partisans du berbérisme politique, c'est-à-dire de la reconnaissance d'une identité particulière, ont été éjectés du mouvement national, ont été exclus du mouvement national algérien. Et ça s'est fait avant la guerre, avant la guerre d'Algérie. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites en amont de la guerre d'Algérie. Et le fait d'éjecter, disons, les partisans du berbérisme politique conduit à la formation d'une idéologie de type baasiste, c'est-à-dire nationaliste arabe centralisé, hein, c'est la centralisation politique autour de l'État, qui va conduire à la formation, disons, d'un type de système à parti unique sur le modèle nassérien et qui vise à éjecter, mais qui sera remis en question dans la guerre en 1956 par le congrès de la Soumam. C'est-à-dire que le congrès de la Soumam en 1956, où c'était un homme très important qui s'appelle Aban Ramdan, qui lui, sentant poindre le danger d'une homogénéisation politique et culturelle, ça c'est très important, dit « il ne faut pas mêler le politique et le militaire, et c'est aux gens de l'intérieur de décider, et pas ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui sont ce qu'on appelait l'armée des frontières. » Cette discussion, elle est actuelle aujourd'hui en Algérie, elle est très importante. C'est-à-dire que la question de la séparation du militaire et du civil induit une question démocratique. C'est pas forcément contre l'armée, mais c'est la question démocratique. C'est-à-dire qui décide réellement ? C'est pas le problème d'être contre ou pour l'armée, le problème c'est qui décide. Comment s'organise la décision démocratique? Et c'est cette tentative-là qui avait été faite en 1956 et que revendiquent aujourd'hui les jeunes manifestants qui essayent de faire la jonction au mémoriel, le plus souvent ils sont d'ailleurs kabyles, hein, pour la plupart, et qui font la jonction politique avec le congrès de la Soumam de 1956. Et ça c'est très important dans les manifestations d'aujourd'hui. Hein. Je vous donne un exemple, bon, qui est une anecdote, c'est qu'en Algérie il y a un film qui a été fait sur un militant très important en Algérie qui s'appelle Larbi Ben Mehdi, qui a été assassiné en 1957 par Bijar. Bon, l'histoire est connue, Ossarès l'a raconté, enfin bref. Or, ce film sur Larbi Ben Mehdi, et qu'est-ce qu'il racontait? Il racontait le combat politique mené par Larbi Ben Mehdi pour faire en sorte que ce soit pas les gens de l'extérieur qui prennent possession du mouvement national. Et tout le film raconte ça. Et donc, il raconte absolument pas la lutte héroïque des gens qui posent des bombes avec les méchants français, etc. Le film a été interdit. Parce qu'il discutait politique. Il discutait pas disons, de l'héroïsme combattant, etc. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la discussion, les vieilles discussions politiques qui avaient cours à l'intérieur du mouvement nationaliste, avec les partisans de Bessali, de Ferhat Abbas, etc., tous ces débats-là, ils reviennent aujourd'hui dans le débat politique algérien. Vous lisez la presse en langue arabe ou en langue française, et vous voyez, ce sera un des thèmes d'ailleurs du livre que je suis en train de faire et qui sortira, je fais une publicité, donc il sortira en février, au moment de l'anniversaire, du premier anniversaire, où vous avez donc le retour de l'ensemble de ces questionnements historiques dans le mouvement d'aujourd'hui, à travers les portraits, à travers les slogans, à travers les mots d'ordre, souvent en arabe, et qui donc veulent faire revenir la pluralité politique du nationalisme dans une volonté de faire nation, c'est-à-dire la pluralité dans la nation. C'est toute la question de l'Algérie d'aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors, une deuxième série de questions. Alors, voilà. Allez-y.
Oui, vous nous avez parlé très rapidement des candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pourriez nous en dresser un portrait rapide des principaux pour que le 12 décembre, si l'élection a lieu, on sache un petit peu à qui on a affaire et puis en fonction de tel ou tel candidat, quelle est la lecture qu'on peut en faire d'un point de vue politique?
Merci. Alors, autre question? Oui.
J'avais deux petites questions. J'ai apprécié que Benjamin mette en cause un peu l'idée du face-à-face entre le mouvement, l'État, l'armée, etc. En même temps, ce qui me fascine c'est ce qui se passe en Algérie, c'est qu'on a l'impression que tout le monde a peur de tomber dans le piège de la violence. Vous l'avez dit implicitement, mais je trouve fascinant par rapport à l'art français de la guerre, enfin, toutes les thématiques chères à Alexis Génie. On a l'impression, bon, il s'agit pas de comparer les mouvements, mais moi, mes amis qui travaillent sur Hong Kong disent bien, est-ce qu'il fallait à un moment passer le mouvement contestataire dans la violence? Et au Soudan, n'oublions pas que le compromis, il est venu du fait que l'armée est passée dans la violence. Donc ma question un peu large, elle est-ce que cette question de la violence, qui est la question quelque part de la démocratie, elle n'est pas centrale et elle touche le traumatisme historique qui est évoqué? Deuxième petite question, on lit dans la presse à droite à gauche que les jeunes ont un peu oublié ce qu'était l'issue migratoire. Est-ce que c'est si facile? Est-ce que ça se passe comme ça? On a l'impression que la question de la migration, qui nous est un peu trop chère ici, est un peu oubliée dans la manière de parler de ce mouvement algérien. Voilà, deux questions peut-être un peu larges.
Merci. Alors, dans le fond, une troisième question.
Dans cette cascade d'arrestations rapides, qui a eu le pouvoir de les ordonner, de les lancer? Et une deuxième question un peu par rapport à celle-là, c'est est-ce qu'il y a un gouvernement, est-ce que ce pays est encore gouverné dans le temps de présent maintenant?
Merci. Alexis, sur la violence, enfin, ou sur d'autres questions? Enfin, tu n'as pas le monopole de la violence.
Oui, alors bon, j'ai un peu dit tout à l'heure, il y a ce... comment dire, ce traumatisme énorme des années 90, qui était une sorte de rejeu, en fait, déjà de la guerre d'indépendance. Il y a dans l'esprit algérien cette espèce d'idée que l'indépendance a été conquise par la violence, et dans les années 90, face à un État assez inefficace, assez corrompu, on pouvait de nouveau, grâce à l'aspect moraliste de l'islam, faire une nouvelle guerre d'indépendance où on pourrait faire enfin un État bien géré. Donc il y a ce recours à la violence qui fait partie de la naissance tout simplement de l'Algérie. Là, l'Algérie, c'est un pays qui s'est libéré lui-même, même si il y a une surestimation de l'héroïsme, comme l'a dit Benjamin, puisqu'en fait, ça a été un problème international. Voilà, si la France est partie à un moment donné, c'est pas uniquement parce que les Moudjahidines ont mis la France dehors. Mais il y a cette idée-là qui continue d'agir dans l'imaginaire algérien, mais Vraiment, ça, je pense que la violence délirante des années 90 a peut-être asséché cet imaginaire-là. Et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est les précautions que prennent les manifestants, que prennent les opposants, pour que vraiment rien ne dérape, rien ne déborde. Même si, parfois dans les manifestations, on est un peu au bord, mais c'est vraiment, il y a ce rejet par principe de la violence, parce que il y en a eu trop. Il y avait une autre question. Le personnel politique, je peux rien en dire.
On laissera Benjamin sur les candidats, mais. Sur l'issue migratoire.
Ah oui, alors après le problème de l'issue migratoire, c'est que l'Algérie est un pays jeune, peuplé, avec une économie un peu chancelante. Que faire? Et c'est vrai que il y a cet espoir politique, mais ça nourrit pas son homme. Donc je pense que l'issue migratoire est toujours présente, même si on en parle moins, même s'il y a cette espèce d'espoir politique. Mais ça veut pas dire qu'un espoir économique. Et c'est vrai que pendant un moment, pendant les printemps arabes, il y a eu des crédits massifs qui avaient été débloqués pour finalement acheter la paix sociale. Ça ne dure pas éternellement. L'économie algérienne est toujours chancelante, crée peu de richesses et peu d'emplois, à part donc cette rente pétrolière et gazière. Donc la question se pose toujours, comment travailler, comment avoir une activité économique sur place en Algérie. Ça c'est un problème autre, qui passe un peu en second plan, mais qui est toujours présent. Et quant à l'idée de qui gouverne. C'est peut-être une question à la réponse pas évidente. Une fois que la première couche des gouvernants a été enlevée, eh bien il y a des factions, des clans, des groupements, qui sont compliqués à distinguer.
Alors un portrait des principaux candidats. Oui. Oui, naturellement.
Vraiment. Sur la question de la violence, tout à l'heure, j'ai évoqué la question du congrès de la Souma. C'est fondamental. C'est-à-dire que les Algériens, depuis la tragédie des années 90, veulent absolument revenir à la politique et ne pas se laisser entraîner sur la sortie du statu quo par le biais de la lutte armée ou de la violence. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de réinvestir le champ politique, et d'où le retour, disons, de ce qu'a été le congrès de la Soumam, avec la déclaration de ce congrès, qui était la primauté du politique sur le militaire. C'était ça, disons, le congrès de la Soumam. Hein, c'est la volonté de reprendre en main le politique contre le militaire. C'est une bataille en Algérie très importante, qui est instrumentalisée par tous les acteurs, c'est-à-dire le retour du politique. Tous les acteurs instrumentalisent cette volonté-là. Alors il y a bien sûr le mouvement démocratique qui joue là-dessus, mais l'armée aussi joue là-dessus. C'est-à-dire que l'armée elle-même, politiquement, joue sur le fait qu'elle dise nous allons revenir dans les casernes, parce que nous aussi, nous ne sommes pas, disons, pour la primauté du militaire sur le politique. C'est-à-dire qu'eux aussi réutilisent le vocabulaire de la contestation historique à leur profit. C'est pour ça que le jeu est brouillé, le jeu est compliqué, hein. Vous savez, c'est la réutilisation du vocabulaire, ça se voit beaucoup en France, ça, aujourd'hui, d'ailleurs, la réutilisation du vocabulaire politique de la gauche par l'extrême droite. Donc ça, ça brouille tout, tout ça. En Algérie, vous avez le même type, disons, de rejeu politique et d'instrumentalisme. D'où le fait de rester centré là-dessus et éviter ce piège. Maintenant, est-ce qu'on va réussir? Ça, évidemment, c'est très difficile, parce que les Algériens regardent aussi ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'ils regardent bien sûr Hong Kong, mais ils regardent le Chili, ils regardent le Liban et l'Irak. Et l'Irak. Et là, il y a beaucoup de morts. Disons, en Irak, il y a beaucoup de morts au Chili, là, Hong Kong, etc. Et là, ils voient tout ça. Les gens sont très branchés. Internet, ça y va à fond. Les gens sont ultra informés, ultra politisés, très au courant de ce qui se passe à l'échelle internationale, etc., etc. Donc, ils vont essayer, effectivement, de sortir de ce piège. Mais attention, parce que le piège, il peut se refermer sur la valorisation extrême des identités régionalistes. Attention, parce que là aussi, quand je dis il y a une instrumentalisation qui peut être faite par certains cercles de l'armée, c'est aussi ça. Bon. Deuxième aspect sur qui dirige, c'est Gaïd Salah, c'est-à-dire le général en chef de l'armée algérienne. Bon, je n'ai pas prononcé son nom, évidemment, mais il est âgé de 80 ans, donc il est né par conséquent en 1940, ça veut dire qu'il avait une quinzaine d'années pendant la guerre d'Algérie, ça veut dire qu'il continue de se revendiquer, disons, d'un héritage mémoriel de cette histoire séquentielle de guerre. C'est extraordinaire quand même, j'en parlais tout hier avec... Un vieil ami à moi qui s'appelle Mohamed Harbi, qui est un historien très connu en Algérie, on a longuement parlé de cette question, et il me disait, mais c'est extraordinaire, Gaïd Salah, il a quand même 80 ans, il utilise encore le vocabulaire et tout, il me dit, je l'ai jamais rencontré, moi, pendant la guerre, je sais même pas ce qu'il faisait. Enfin, Mohamed Harbi, c'était un des dirigeants du FLN, c'est pour ça que je vous dis ça. Hein. Donc c'est assez étonnant, mais il me dit, il est fragile, parce que il a renversé, disons, celui qui voulait le mettre en prison 6 mois avant, enfin je vous donne comme ça des petits secrets, mais est-ce que celui qui est en prison aujourd'hui va pas à son tour le renverser? Il dit, on n'en sait rien. C'est oh là là, c'est tout ça et pas figé de manière, disons, définitive. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un gouvernement en Algérie qui est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Bédaoui, qui est chef du gouvernement, avec des ministres qui se réunissent toutes les semaines, qui décident, etc. Et il y a des mesures qui sont intéressantes par rapport à ce qu'on discute aujourd'hui, c'est que, par exemple, ce gouvernement a décidé l'ouverture du marché algérien sur les hydrocarbures. Mais ça, c'est un grand tournant, parce que pour l'instant, ce marché était fermé, et il y a là, c'est une interprétation de beaucoup d'Algériens qui disent, s'ils ouvrent le marché sur les hydrocarbures, c'est que par l'intermédiaire, du pétrole et du gaz, ils s'assurent le concours des chancelleries étrangères. C'est-à-dire les Américains, les Russes et les Chinois, qui sont aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Algérie. C'est la Chine, qui est passée devant la France, hein, comme partenaire commercial. Il faut le savoir, ça, quand même, aussi. Hein. Donc, ça, c'est très important. Donc, on a, par conséquent, ce gouvernement qui prend des mesures. C'est-à-dire que c'est pas seulement... Ils ont décidé cela. C'est-à-dire d'ouvrir pour s'assurer, effectivement, l'appui politique. Je veux dire, de ceux qui ont naturellement des intérêts économiques gigantesques, hein, avec la question du gaz et du pétrole. Donc, vous voyez que c'est gouverné, comme on dit. C'est pas le chaos, enfin, je veux dire, avec des manifs tous les jours, etc. Vous voyez, ça fonctionne, hein. Il y a de la politique, quoi, je veux dire. Les candidats, il y a 3 candidats sur 5 qui sont très importants. Alors, il y a, le plus important, c'est Benflis, Ali Benflis, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, parce que lui, il a été premier ministre. Jusqu'en 2003, donc il avait fait la transition sur le passage de 99 à 2003 de Bouteflika, et il a été éjecté par Bouteflika, il est passé dans l'opposition depuis 2003. Et il s'était présenté à chaque fois, à toutes les élections, contre Bouteflika, et il y avait cette particularité qui faisait rire tous les Algériens, c'est que il faisait des meetings, Benflis, dans toutes les régions d'Algérie où il y avait des milliers de personnes, etc. Et quand on arrivait au résultat final des élections, Benflis faisait 5% et Bouteflika 88%. Bon, donc les gens disaient, c'est pas possible, parce que il y a même un film qui avait été fait d'un cinéaste algérien qui s'appelait Ben Smaïl, qui a fait un film sur Benflis, parce qu'il a suivi le candidat dans les élections présidentielles, je crois, je sais plus de quelle année, peut-être de 2004 ou 2005, il y avait un monde fou. Et à la fin, le mec, il faisait 3% des voix ou 5%. Bon. Donc il avait par conséquent une aura, un potentiel incroyable. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était originaire de l'Est de l'Algérie, des Aurès et de Batna. Et ça, c'est très important dans l'histoire algérienne. Parce qu'en fait, Bouteflika, il est de l'Ouest algérien et il est né au Maroc. Il faut savoir tous ces trucs-là. Parce que lorsque les gens commençaient à descendre dans la rue en manifestant en février 80, là, en 2019, les mots d'ordre des gens dans la rue, c'était « le Marocain dehors ». Non, mais il faut quand même... Il faut dire les choses, quoi. Enfin, bon, on peut... Hein, voilà, c'était ça quand même. C'est pas tout, n'est pas pur, hein, dans la démocratie. Vous voyez, un peu de xénophobie, tout ça, quoi. Bon, donc c'était ça quand même, hein. Parce qu'il était né à Oujda. Hein. Alors, il incarnait à la fois la contiguïté mémorielle d'une Algérie révolutionnaire, boumdieniste, etc., etc., mais en même temps, dans la mesure où il était affaibli, on le voyait pas, etc., c'est en fait son côté marocain, disons, qui est ressorti vers la fin et qui était un des arguments, disons, pour faire en sorte qu'il... Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que pendant très longtemps en Algérie, le cœur du pouvoir, c'était pas l'Ouest, mais c'était l'Est algérien, c'est-à-dire les Aurès. Et Boumdiène, c'est l'Est. Chedli, c'est l'Est. Boudiaf, c'est l'Est. Si on connaît pas la cartographie de l'Algérie à ce niveau-là, et la Kabylie aussi, bien sûr, beaucoup de premiers ministres kabyles, comme Ouyahia, par exemple. Hein, vous avez les présidents l'Est, le premier ministre kabyle. Bon, vous avez une espèce d'attelage, hein, donc, qui fonctionnait, et tout ça au nom de « nous sommes une seule nation ». Il n'y a pas de régionalisme. Hein. Mais dès que le gouvernement était formé en Algérie, hop, 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 tout le monde regarde de l'Est, de l'Ouest, les trucs, les quartiers, le village, etc., etc. C'est comme ça. Bon, or Benflis, il a effectivement cette particularité-là. Et il est comme adversaire principal, il a comme adversaire principal Tebboune, qui lui s'est opposé à Bouteflika. Il a été éjecté par le clan Bouteflika, parce qu'à l'époque, Bouteflika n'avait plus les moyens d'éjecter personne, le pauvre, et il n'arrivait même plus à parler. Donc, c'était il y a 2 ans. Et donc, il a été éjecté parce qu'il avait levé des affaires de corruption en Algérie. C'est-à-dire qu'il a sorti des affaires, parce que les affaires de corruption en Algérie sont sorties depuis maintenant plusieurs années. Hein, depuis plusieurs années, il y a des affaires qui sortent régulièrement dans la presse algérienne sur le bâtiment, sur je sais pas quoi, enfin bref. Et Tebboune était un de ceux qui avaient sorti le plus d'affaires. Il se fait éjecter. Donc il se présente bien sûr, aux yeux du public, hein, comme étant un grand opposant, bien entendu, en disant « mais moi j'ai été moi-même ». Et ils organisent d'ailleurs un grand débat à la télévision algérienne cette semaine. Normalement, dans quelques jours, il y a un grand débat entre les 5 candidats, un peu sur le modèle de ce qu'on connaît, où, naturellement, les arguments de chacun, c'est de dire « moi, je suis un opposant, de toujours ». Mais le troisième, c'est Mihoubi, qui a été ministre juste plus longtemps avec Bouteflika, qui était ministre de la communication et de la culture. Alors lui, il est resté un peu plus longtemps, hein, je veux dire, avec Bouteflika, donc c'est compliqué, disons, d'expliquer que c'est un grand... Mais lui, il se présente comme un moderniste. Vous savez, la communication, etc., etc. Donc, bon, et puis il y a 2 autres candidats, dont un se réclame directement de l'islam politique, hein, comme au bon vieux temps, hein, je veux dire, comme au temps du fils, etc., et dont plus personne ne parle, évidemment, hein, et qui ne fait pas office, disons, de candidat sérieux. Donc tous ces gens-là, effectivement, ont appartenu à un moment ou à un autre au sérail politique, enfin je veux dire, bon, vous savez, dans toutes les révolutions aussi, vous avez des gens qui ont appartenu à l'Ancien Régime et qui ont combattu, hein, je veux dire, et qui se sont présentés comme des gens nouveaux. Ça aussi, c'est pas original, hein, c'est pas quelque chose de très original. Je vais pas ici faire la liste, hein, bon. Donc, la grande question qui va se trouver posée dans la semaine qui vient, c'est qu'est-ce qui va se passer dans ce débat à la télévision algérienne, et est-ce que ça aura un impact sur les Algériens pour les faire voter? Et ça... Encore une fois, on ne peut pas le savoir ni le mesurer.
Merci. Ah oui. Ah ben alors, oh, tu es beau.
Oui. Non, ben la migration, c'est la question que posait Olivier aussi, bon, sur cette question. Ben, je pense que, comme dans beaucoup de pays, à la fois d'Afrique du Nord, du monde arabe, de la Méditerranée, de tout ce qu'on voudra, beaucoup de jeunes veulent partir. C'est général, c'est massif, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup... d'ennui, il y a beaucoup de tout ça on connaît. Le problème c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire que c'est on a ce fantasme du voyage de l'autre, du monde tout simplement. Par parenthèse, vous savez, en France il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté la France, hein, ces 20 dernières années. Non mais c'est vrai, je veux dire, bon, on n'en parle jamais, mais le nombre d'expatriés français en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, à Londres, etc., vous avez un paquet de jeunes, hein, disons, qui s'en vont, hein, qui disent moi la France me fait plus rêver, salut les copains, hein. Donc il faut quand même aussi, enfin je fais une petite parenthèse personnelle, hein, bon, pour vous dire ça. Je la ferme très vite. Bien. Donc, maintenant, le passage à l'acte. Bah, le passage à l'acte, il continue. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais est-ce qu'il continue dans des proportions telles que celles qu'on lit dans Valeurs Actuelles? C'est-à-dire 3,5 millions de gens vont arriver la semaine prochaine. Un grand débat va avoir lieu là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Non, bien sûr. Est-ce qu'il y a aujourd'hui 10 millions d'Algériens qui vivent en France? Non, bien sûr. Et s'il y en a 4 millions qui vont venir? Non, bien entendu. Donc c'est tout ça, c'est des trucs entièrement falsifiés, fantasmés, bien sûr, qu'on balance exprès, mais le désir du départ ne s'est pas atténué. précisément parce que il faut pas se raconter d'histoire là aussi. Ce désir-là, il va pas s'évanouir parce que très souvent, pour la jeunesse en particulier algérienne, mais pas seulement, c'est en attendant que la révolution démocratique réussisse, ben moi j'ai autre chose à foutre dans ma vie, hein, je m'en vais, salut les copains. Donc c'est un peu ça quand même l'état d'esprit, hein. C'est-à-dire bon, moi je suis pour la démocratie, y a pas de problème, comme ça peut prendre encore 10 ans, donc moi vous la faites les copains, mais moi je m'en vais demain matin. Voilà, c'est à peu près, je vous donne un peu l'état d'esprit quoi.
Voilà, ben souhaitons que la démocratie se fasse. Eh bien, cela nous a conduit jusqu'à la fin de notre soirée, il est 20h45. Nous mettons un terme, je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions encore, mais nous remercions nos deux intervenants.
Je vous rappelle que des urnes sont présentes à la sortie pour nous aider à organiser ces soirées. Et désormais, la maison accepte aussi les cartes de crédit.
Voilà. Merci de me rappeler qu'il y a un entretien avec Benjamin Stora dans la revue Études qui complétera tout à fait cette soirée qui est parue au mois de...
Juillet. Voilà. En attendant la sortie du livre de Benjamin en février, vous pouvez revenir sur cet entretien, même s'il y a pas mal d'abonnés de la revue Études parmi vous. Mais voilà, autrement, c'est une bonne raison aussi de le relire.
Merci Nathalie de ce rappel.